Nicolas Saint-Cluc, pour cette troisième partie de Radio Barque, on va voir un petit peu ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous faites. Et puis, on va quand même parler, alors on ne peut pas l'éviter, du Parti Socialiste, parce que vous êtes toujours membre du Parti Socialiste.
Toujours. Bon, donc je suis une espèce en disparition, mais je suis toujours membre.
Donc vous êtes concerné... Bon, par le congrès récent, par les difficultés actuelles du parti, par son avenir, etc. On en dira un mot, mais je sais aussi que vous êtes par moments un globe-trotter, vous aimez bien aller faire un voyage à l'autre bout du monde. Récemment, vous êtes allé, je crois, à Ceylan, enfin,
Sri Lanka,
ça s'appelle comme ça maintenant. Oui. Bon, alors c'est des pays du tiers-monde, très éloignés, mais qui... Enfin, je dirais pas leçon, mais peut-être... Tirez-vous d'un tel séjour ?
Les leçons qu'on en tire en premier, c'est les rencontres. C'est l'humanité, c'est-à-dire qu'on rencontre d'autres gens qui sont plus recentrés sur l'essentiel, donc sur la vie de tous les jours, sur l'entraide, sur la solidarité. Ça permet de comparer entre ce qu'on a nous en France et ce qu'ont les autres. Et donc quand on rentre, on se dit « Ah, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance.
Voilà. » Et on s'en rend pas compte
parce qu'effectivement...
On y vit tous les jours.
Exactement. Mais par contre, vous voyez, comme au Sri Lanka, moi je n'ai vu aucune personne sur un séjour de s'invectiver, parler plus fort que l'autre. Je n'ai vu aucune dispute. Et pourtant, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les conditions de circulation sont incroyables.
Oui,
si on faisait la même chose en France,
c'est un peu le foutoir chez eux.
Complètement. Et on aurait des heures sans arrêt. Aujourd'hui, vous savez, parce qu'on va pas trop vite, vous avez une personne se fait agresser parce qu'elle va pas trop vite.
Absolument. Oui.
C'est incroyable. C'est-à-dire qu'on ne supporte plus la différence, quoi. On a tous des différences. Quand on est personne qui a 80 ans et qui est au volant, forcément, elle va moins vite. Et il faut l'accepter.
Elle a peut-être raison aussi.
Et bien sûr. Mais voilà. Et donc, ce qu'on apprend, c'est ça. C'est que finalement, quand les gens ont peu, ils sont très solidaires et ils ont quand même le sourire.
Et à votre avis, est-ce que c'est lié au substrat de culture bouddhiste ou au fait que les gens sont pauvres, sont pas riches, quoi?
Je pense que c'est plus... C'est aussi à la philosophie et la culture. Ils sont pas tous pauvres, hein. Il y en a... Sri Lanka,
oui,
c'est un des pays qui avait le plus... je crois qu'il était 73e au rang mondial. Donc il a beaucoup de richesses.
Il souffre peu de malnutrition
parce qu'ils ont beaucoup de vous savez c'est le pays de noix de coco, des légumes, des ananas, c'est le premier pays exportateur au monde de thé.
Le thé, oui,
mais,
bien sûr.
Mais,
le thé de Ceylan,
précieuse aussi,
connaît.
Etc. Mais par contre, le problème qu'ils ont, comme dans beaucoup de pays, c'est un gouvernement un peu corrompu. Et ça, ils le savent.
Donc, très mauvaise répartition de...
Très mauvaise répartition des richesses, des très, très, très riches, très peu de classe moyenne et beaucoup de gens qui se débrouillent. Voilà. Et une démocratie, son support essentiel, c'est les classes moyennes. Plus on a de classes moyennes, plus l'éventail est important et plus la démocratie tient. Et c'est toute la difficulté. C'est là que l'on voit quand on est en bonne santé ou pas. Quand on a les classes moyennes qui se réduisent et qui perdent du pouvoir d'achat et qu'on a de plus en plus de riches, comme ça se passe un peu en ce moment dans les pays occidentaux dits riches, eh bien, il y a un risque pour la démocratie.
Oui, voilà. Bon, c'est la leçon que vous tirez. Alors, revenons au Parti Socialiste. J'ai eu à ce même micro, Monsieur Saint-Cluc, très récemment, un certain nombre de socialistes, dont le premier d'entre eux, le secrétaire fédéral Alix Soler-Alcaraz. Bon, vous n'ignorez rien, évidemment, de la situation du Parti Socialiste aujourd'hui, des élections présidentielles catastrophiques, on peut le dire, sur le plan du score, puis un congrès très houleux, puis dans le département, puisque vous êtes au doigt, une situation presque 50-50, deux blocs qui étaient en désaccord. Comment les choses vous semblent-elles aujourd'hui se profiler?
Alors, juste pour faire quand même un petit historique, moi j'étais pour la NUPES, en tout cas pour les élections législatives.
Pour l'union.
Pour l'union, voilà, pour cette union, parce que je savais très bien que sinon on aurait encore été moins visible.
Alors c'était un pis-aller pour vous peut-être.
Mais peut-être aussi voir ce que ça va pouvoir donner, parce que le problème d'une association, il faut pas qu'il y ait quelqu'un qui faut pas qu'il y ait trop de déséquilibre. Il faut pas quelqu'un qui prenne l'ascendant sur les autres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on a un peu l'impression à l'Assemblée, etc., que parfois il y a un peu trop d'incendants des uns sur les autres.
Et puis, alors je vais vous citer un exemple. J'ai eu il n'y a pas très longtemps le sénateur Sébastien Pla.
Oui.
Alors, je lui ai posé à peu près la même question. Et lui, il me disait carrément, le problème aujourd'hui, c'est peut-être pas la NUP, c'est M. Mélenchon par ses propos outranciers. Est-ce que vous partagez ce point de vue ?
Moi, j'étais très séduit par son discours et par beaucoup de points de vue de M. Mélenchon. Par contre, où il m'a beaucoup déçu, c'est entre les deux tours pour les législatives. Et ça, il m'a, mais plus que déçu. C'est-à-dire qu'on l'a mis dans le piège. Parce qu'il a un gros souci, Monsieur Mélenchon, c'est notamment avec tout ce qui est police, service, voilà, tout ce qui est sécurité, etc. Et il a été sur ce terrain-là, il a tenu des propos sur les policiers, sur la forme, qui était pas admissible,
par exemple,
et qui a fait perdre, je le dis clairement, qui a fait perdre au moins 50 députés à la NUPES.
Vous pensez?
Je ne suis pas le seul à le penser.
Vous l'évaluez comme ça?
Je l'évalue, mais certainement. Et qui fait d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, dans l'Aude, nous avons eu un raz-de-marée du Rassemblement national. Et donc, effectivement, il a par moment, il a des lumières et il a un discours, il a une culture extraordinaire. Et le seul emportement, par contre, et ce discours, enfin, très caricatural et qui finalement fait un peu peur, eh bien, ressurgit trop souvent. Et je crois qu'il est temps qu'on passe à autre chose. Vous avez vu dans son propre camp aujourd'hui qu'il y a deux camps. Pas grand chose, ça s'est joué aussi. Et je crois qu'ils en ont parfaitement conscience, en tout cas les plus jeunes, que maintenant il est temps de passer la page Mélenchon et d'être plus sur, d'être un peu plus modéré sur la forme et quand on veut faire un équilibre lorsqu'on veut s'associer avec d'autres personnes, mais il faut être sur un même plan et pas qu'il y ait une domination de l'un sur les autres. Mmh. Sinon, c'est pas une association.
Oui, puis il y a peut-être le fait aussi que la France Insoumise, c'est pas un parti au sens classique, c'est un mouvement, on dirait presque personnel au démarrage.
Oui, un peu comme Renaissance, enfin, ancien En Marche. Enfin, oui, vous avez raison, qui dépendent d'une personne. Mais aujourd'hui, on a quand même dans leur parti, ça reste quand même un parti. Vous avez quand même beaucoup de gens aussi qui ont des compétences, qui travaillent et qui peuvent faire le job. Donc à un moment donné, il faut arrêter de vouloir toujours avoir un leader. Et le problème en France, c'est ce qu'on a. Hein. On a ce gros souci, c'est toujours on veut un leader. En même temps, on veut beaucoup de démocratie participative. On vous dit il faut t'associer à tout le monde. Mais enfin, quand on peut avoir un leader sur lequel se reposer et suivre
l'homme providentiel.
C'est
quoi.
Ça. Et suivre comme un mouton, ça va bien.
Ou le leader maximo, comme on dit.
Il faut passer à autre chose.
Oui. Ouais. Et alors, comment voyez-vous donc votre parti? Bon, vous, un certain nombre de socialistes, on le sait, sont pas on rejoint notamment souvent les macroniens ou les macronistes. Et vous vous sentez attaché en regardant l'avenir au Parti socialiste ?
Ah oui, bien sûr, je suis attaché. Après, bien sûr, comme tout le monde, je regarde ce qui va devenir et je fais partie de ceux aussi qui auront peut-être une responsabilité dans ce qui va devenir. Mais quand les choses vont mal, eh bien forcément, on se retourne, on est dos au mur et on essaie de trouver des solutions. Et les solutions, c'est pas en s'invectivant et il faut discuter. Il y a deux camps aujourd'hui qui s'opposent et qui finalement, mais sur le fond. Ils disent à peu près les mêmes choses, c'est sur la forme. Hein, c'est toujours de dire, on ne doit pas être derrière LFI, ce ne doit pas être effectivement la figure de Mélenchon qui doit l'emporter, etc. Là-dessus, je crois qu'ils ont raison aussi. Donc je crois qu'il faut surtout, lorsqu'on veut faire une reconstruction, il faut s'écouter, revenir sur les bases, c'est-à-dire sur le fond, et pas juste sur des problèmes de personnes. Voilà. Et bien souvent, il y a des problèmes de personnes, d'arrière-pensée aussi, sur l'avenir. Voilà. Il y a tout ça aussi qui rentre
en jeu. Oui, il y a la forme. Mais alors, le fond, justement, revenons sur le fond. Alors, le Parti socialiste, ou le socialisme en France aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Je posais récemment la même question à d'autres socialistes. Par exemple, M. Régis Banquet, le patron de l'agglo de Carcassonne, lui me disait, pour moi, c'est la social-démocratie. Alix Soler-Alcaraz, le premier secrétaire actuel, lui est... Enfin, ne voit pas tellement une social-démocratie française, dans la mesure où c'est pas historique, selon lui. Quelles seraient, pour vous, aujourd'hui, les valeurs sur lesquelles le socialisme repose ? Et un socialisme réaliste.
Ben, c'est la solidarité. Le premier, c'est la solidarité. C'est le partage des richesses. Moi, je suis pas pour une. Enfin, il faut revenir à la base, quoi. On l'a vu aussi avec le problème des retraites. Il faut revenir à des choses simples. C'est pour ça, d'ailleurs, aujourd'hui, que le Rassemblement national a repris les thématiques des socialistes, dans le discours, pas dans le vote, hein. Dans le vote ils font l'inverse, mais dans le discours ils sont proches des gens, ils sont pour le partage, etc. Mais il faut revenir à ces fondamentaux, c'est-à-dire qu'on doit être dans une société qui doit être juste, qui doit être équilibrée, où on ne doit pas avoir des différences qui sont astronomiques, qu'on soit 10 fois plus riche, 10 fois plus fort que quelqu'un, ça peut arriver. Mais 1 milliard de fois, 3 milliards de fois, ça n'existe pas dans la nature. Mmh. Et c'est bien la difficulté. C'est-à-dire, on s'éloigne tellement du milieu naturel, tellement on s'en éloigne qu'aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Et on devient juste des consommateurs, etc. Il faut redonner du pouvoir aux politiques, au peuple. Et pour redonner du pouvoir aux politiques, au peuple, eh bien, il faut reprendre les rênes. Et aujourd'hui, s'il y a beaucoup de gens qui se désintéressent à la politique, parce qu'ils ont l'impression, c'est pas qu'une impression, que le politique n'a plus le pouvoir, que ce sont les multinationales. Et c'est
ce qui est vrai.
Non, mais c'est pas assez. C'est vrai. Et donc, et c'est pour ça que, au niveau mondial, on le voit bien, qu'il y a une volonté, même les États-Unis aujourd'hui. Vous avez le premier président qui dit, ben, finalement, il va falloir taxer, effectivement, les plus riches, les multinationales, etc. Il faut redonner du sens à l'impôt, parce que c'est l'impôt, la solidarité qui fait qu'on est fort et qu'on fait société. Donc, c'est ça, le socialisme, c'est revenir aux fondamentaux de ces valeurs-là et ne pas aller sur la social-démocratie. Ça veut dire quoi? Non, c'est des choses simples. Redistribuons, faisons en sorte que tout le monde ait du travail, vive mieux, et là on fera du socialisme.
Eh bien, on va conclure là-dessus. Merci Nicolas Sainte-Cluc.
C'est moi qui vous remercie.
Le prochain invité sera Louis Madol, le président de la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie de l'Aude, où là on parlera évidemment principalement d'économie. Voilà. Parmi d'autres invités pressentis, Didier Codorniou, Hélène Sandranier, ça c'est pour les semaines prochaines. Merci aux auditeurs de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.